que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En RDC, il y a 10 enfants qui sont affectés par cette maladie appelée autisme, qui est une maladie caractérisée par des troubles de communication, du comportement et de relations sociales. Cela peut se manifester dès les premières années de la vie, d'après les spécialistes, mais les troubles peuvent aussi varier d'une personne à une autre et peuvent être soit sévères ou encore moins sévères. Alors avec notre invité, on va découvrir les facteurs qui déclenchent l'autisme et puis est-ce qu'il y a moyen de prévenir cela? Comment faut-il traiter l'autisme, nous rappelons le numéro des contacts et c'est les 081-890-6394. Nous appelons à des parents qui ont peut-être, qui ont y a constaté ce genre de comportement avec leur enfant. Ils peuvent nous appeler donc à ces numéros, les 081-890-6394. Alors, pour ce Joachim Mouka ou Joachim, est-ce que vous voulez nous aider à bien expliquer encore davantage et c'est quoi l'autisme?
Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, pour la confiance. Merci en tout cas. Bon, donc qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental dont les caractéristiques sont généralement présentes chez l'enfant avant qu'il n'atteigne 36 mois d'âge. Donc nous disons c'est un trouble neurodéveloppemental.
36 mois d'âge, donc avant 3 ans.
Avant 3 ans.
3 ans, oui.
Alors, pour que le diagnostic de l'autisme soit posé, il faudra qu'il y ait altération généralement dans 3 domaines de développement. Le premier domaine inquiétant, c'est l'altération dans l'interaction sociale. Donc, l'interaction sociale. Deuxième domaine, c'est au niveau de la communication. Alors, il y a un troisième domaine, c'est le domaine du comportement, avec les stéréotypies, n'est-ce pas? En ce qui concerne d'abord le premier domaine, le domaine d'interaction sociale, c'est là où on constate que, avant que l'enfant n'atteigne 3 ans d'âge, généralement, dans mes consultations, et on remarque cela avant même que l'enfant atteigne 18 mois d'âge, vous verrez que l'enfant n'a pas une attention conjointe, il ne fixe pas facilement son regard vers les autres. Vous savez, lorsque la maman est en train d'allaiter l'enfant, généralement, il y a une interaction entre la mère et l'enfant. Et donc, du moment d'allaitement, c'est parmi les moments privilégiés où on devra bien être attentif pour voir qu'est-ce qui se passe entre l'enfant et la mère. Donc, la mère constatera, par exemple, que l'interaction au niveau du sourire est difficile à obtenir, au niveau du regard, difficile à obtenir. Eh bien, lorsque l'enfant grandit, en réalité, l'enfant doit, surtout lorsqu'il est en train de se battre pour marcher à 4 pattes, donc il peut aller vers les autres. Ça, c'est un peu difficile pour cet enfant qui essaye de s'accrocher uniquement vers la mère. Et au fur et à mesure de son développement, on va constater que cet enfant s'isole. Il s'isole, il est difficile pour qu'il puisse aller vers les autres, mais ce sont les autres qui viennent vers lui. Deuxième domaine problématique, c'est le domaine de la communication. Dans le domaine de la communication, nous avons 2 versants. Il y a le versant réceptif et le versant expressif. Commençons par le versant expressif. C'est là où l'enfant commence à exprimer ses besoins. On peut exprimer ses besoins soit par la parole ou par le geste. Donc, à ce niveau-là, se pose également des problèmes au niveau du langage, au niveau du langage. Certains enfants peuvent communiquer, mais ils ne peuvent pas parler. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate, par exemple, que certains enfants peuvent acquérir, n'est-ce pas, les rudiments de la parole. Généralement, vous voyez, lorsque l'enfant grandit aux alentours de 4, 5, 6 mois, 7 mois, il y a une étape importante qu'on appelle les babillages, l'allation. Et ces allations, babillages vont se transformer au fur et à mesure au premier mot. Et le premier mot, au fur et à mesure, l'enfant va passer au mot phrase et puis une petite phrase. C'est qu'on constate chez certains enfants qui développeront plus tard de l'autisme, hein, on va remarquer, par exemple, pour certains, il a acquis le babillage, il peut aussi acquérir les mots. Les mots, c'est un papa, maman généralement, mais après, il y a blocage. L'enfant n'avance plus. Pour certains autres enfants, il n'a pas babillé et les parents n'ont jamais entendu un seul mot. D'autres enfants encore, l'enfant peut avoir même acquis les mots phrases, n'est-ce pas? Et il peut dire du pain, de l'eau, mais après, il y a une régression jusqu'à l'effacement total. Voilà, donc, mais d'autres enfants encore, ils peuvent acquérir la parole, mais incapables d'entretenir l'entretien, hein, la conversation avec autrui. Donc là, c'est au niveau de la parole.
De la communication.
La communication maintenant, parce qu'il y a une différence entre la parole et la communication. Ouais. On peut communiquer par geste, communiquer, je veux aller faire pipi, je communique par toucher les habits et tout, mais je n'arrive pas à exprimer. Voilà. Alors maintenant, au niveau de la du langage réceptif, c'est réceptif, ça veut dire la compréhension de ce que les autres disent. Alors là, c'est en rapport avec la cognition. Avec la cognition. Donc, certains enfants avec autisme ont difficile à pouvoir comprendre ce que l'autre dit. Donc, c'est dans cette catégorie où on trouve les enfants avec autisme ou avec le trouble du spectre de l'autisme, mais associé à une déficience intellectuelle parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Va à la maison, ramène-moi mon téléphone, l'enfant vous regarde. Ou bien, parce que le père insiste ou la mère, il va à la maison, il revient avec la culotte. Donc, il n'a pas compris. Troisième domaine, problème, c'est le domaine du comportement. En réalité, les enfants, lorsqu'ils grandissent, il y a ce qu'on appelle la prise d'initiative. Et la prise d'initiative, l'enfant peut prendre l'initiative pour les jeux, jouer avec les autres. L'enfant peut aller vers les autres parce qu'il joue, il veut aussi jouer. Certains enfants avec autisme, n'est-ce pas, ont difficile d'abord à initier les jeux. Alors, d'autres ont aussi difficile à pouvoir s'intéresser aux divers objets qui sont aux alentours. Ouais, parce que les parents peuvent acheter beaucoup de jouets, ou bien même pas sans jouets, mais l'enfant doit s'intéresser à la télévision et à tout ce qui est à la maison. Mais certains enfants avec autisme, il y en a qui ont un intérêt sélectif, ils peuvent fixer leur attention uniquement sur un seul objet.
Non, parce que je comprends donc que l'enfant, avant 3 ans, oui, les parents doivent être attentifs. C'est des enfants qui semblent un peu indifférents à tout. C'est pas des bons signes, ça. Oui. C'est-à-dire que les parents, il faut bien observer l'enfant. Il faut qu'on sente que l'enfant vit. L'enfant vit, mais quand il est un peu replié, rien ne l'intéresse, ça c'est un problème.
Ça c'est un problème très important. Je vais ajouter un élément très important sur lequel vous venez de faire allusion, notamment c'est l'indifférence autistique. Vous savez, dans la catégorie des enfants qui ont de l'autisme, nombreux ont reçu abusivement les diagnostics de la surdité. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a une indifférence autistique. L'enfant avec autisme entend généralement. Pour ceux qui ont l'autisme typique, ils entendent. Mais cette indifférence autistique peut faire penser à une surdité. Vous l'appelez, il vous regarde pas, mais vous serez surpris qu'il peut faire le geste que vous lui demandez de faire.
Parce qu'on va poursuivre avec vous pour savoir, lorsqu'on découvre tout cela précocement, s'il y a moyen de soigner l'enfant ou bien de faire en sorte que ce trouble puisse disparaître au fur et à mesure. Alors, nous avons déjà des auditeurs en ligne, Eradi, qui nous appelle des Kindou, Serge, qui est à Bandundu. Nous rappelons le numéro des contacts pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet ou qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. Nous parlons de l'autisme causé traitement avec le professeur Mouka ou Joachim, qui est spécialiste de l'autisme chez l'enfant. Il est également psychopathologue. Si vous voulez appeler, le numéro de contact, le numéro d'appel, c'est le 080-890-63-94.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse quinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Koro à la une.
Eradi nous appelle de Kindu. Bonjour Eradi. Radis n'est plus en ligne. Alors, on va retrouver Serge qui est à Bandundu. Bonjour, Serge.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher notre invité.
On vous écoute, Serge.
Bon, j'ai vite compris le sujet. Bon, j'ai quand même des préoccupations à poser à notre invité.
Oui.
La première est celle de savoir quelles sont les causes de ces maladies chez les enfants. La deuxième préoccupation, ces maladies touchent les enfants, précisément de quel âge? Parce que nous constatons ces maladies sont aussi à la cause de beaucoup de morts des enfants. Ce sont les deux préoccupations que je voulais que notre invité me réponde.
Merci Serge. Depuis Bandou, voilà, pour ce, il fallait clairement qu'on vienne aux causes de l'autisme. Oui. Alors, quelles sont les causes de l'autisme?
Les causes de l'autisme sont diverses. Elles sont tellement diverses. Donc, aujourd'hui, si on parle des étiologies concernant les troubles du spectre de l'autisme, la première étiologie, elle est génétique. Elle est génétique, en tout cas, actuellement, à plus de 70%, donc à plus de 70% de cas. Génétique, pourquoi? Parce que on s'est trouvé dans une famille où il y a un enfant avec autisme et d'autres qui pourront avoir des manifestations autistiques. Et généralement, il y a de recherches génétiques qui sont entreprises dans beaucoup de pays, dans beaucoup des institutions de génétique humaine. Donc, on constate que, en tout cas, il y a une base génétique actuellement confirmée en ce qui concerne les facteurs. Même ici à Kinshasa, lorsque je reçois les enfants, ben, on s'est trouvé que s'il y a un enfant avec autisme, d'autres enfants ou un peut avoir. Mais bien sûr, le pourcentage de l'hérédité est minime, au moins aux alentours de 1%, n'est-ce pas, 1 à 3%, mais quand même, il y a possibilité, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas faire peur. Deuxième facteur étiologique, ce sont des facteurs qu'on met dans la catégorie environnementale. Environnemental parce que, bon, on suppose évidemment que lorsque l'enfant est dans un environnement traumatisant, il y a possibilité également que l'enfant puisse manifester certaines caractéristiques autistiques.
On va poursuivre avec vous parce que le premier auditeur qui est à nouveau en ligne, va vite lui accorder la parole. Eradi, vous êtes en ligne. Bonjour Eradi.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute. Voilà, il y a des problèmes avec la ligne téléphonique, avec notre auditeur de King Radi, n'est plus en ligne, désolé. Alors, professeur, oui. vous parlez de causes, vous avez parlé d'abord génétique et puis de causes environnementales.
Environnementales, oui. Bon, il y a certaines autres recherches qui pensent que lorsque l'enfant vit dans un environnement où il y a des pesticides, on peut également recevoir ce diagnostic ou manifester les caractéristiques. Mais il y a un grand problème avec le vaccin. Et évidemment, il y a beaucoup de recherches. Les immunologues sont en train de continuer à pousser pour nous faire croire qu'il y a une catégorie d'enfants qui manifestent des caractéristiques autistiques après avoir reçu le vaccin RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon. Bon, mais évidemment, à ce niveau-là, il y a beaucoup de contradictions. Donc, il y a encore beaucoup de contradictions.
Rien n'est encore sûr.
Rien n'est encore sûr. Bref, il y a vraiment une amalgame, mais c'est au niveau des hypothèses. Mais ce qui est beaucoup plus sûr, c'est au niveau génétique. Au niveau génétique, ça, en tout cas, même au niveau des consultations actuelles, on sait bien, très très bien le prouver. Il a posé la question de savoir à quel âge se manifestent les comportements. Évidemment, les trois caractéristiques que je venais de décrire, notamment l'altération au niveau d'interaction sociale, au niveau de la communication et également présence des comportements stéréotypés, ces caractéristiques doivent être présentes chez l'enfant avant qu'il n'atteigne 3 ans d'âge. Et on remarque généralement à partir de 12 ans, 18 mois, en fait 12 mois, 18 mois, en tout cas 24 mois, vraiment beaucoup d'enfants ont tout prêt.
Voilà, un autre auditeur en ligne, Abeli, qui nous appelle de Kindu. Bonjour Abeli.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute. Quelle est votre question par rapport à ces sujets sur l'autisme?
Je voulais savoir quels sont les remèdes pour lutter contre cette maladie. C'est tout comme la question.
Merci oui. Abeli. Merci. Il y a d'autres auditeurs pour ça, vous allez répondre à Abeli. C'est Malonga qui nous appelle de Bandundu. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel, bonjour notre invité.
Bonjour, merci.
Ok, ça va. En tout cas, les explications sont suffisantes. Hein. Vous m'avez déjà précédé, mais ce que je veux dire est que de tout cela, ce que vous venez d'expliquer là-bas, est-ce qu'il y a moyen de prévenir pour éviter aux enfants de ne pas être victimes à ce fléau? Est-ce que c'est un fléau ou bien c'est une maladie provoquée seulement par la négligence des parents ou bien ça vient spontané comme ça?
Merci Malunga. Donc, pour ça, vous répondez d'abord à Béli par rapport au traitement et ensuite à Malunga s'il y a moyen de prévenir à l'autisme.
Merci. D'abord, en ce qui concerne le traitement de l'autisme. L'autisme, je rappelle bien, c'est pas une maladie, mais c'est un trouble neurodéveloppemental. Il y a une différence entre un trouble et une maladie. Donc déjà, à ce niveau-là, on doit très bien s'entendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour traiter un enfant qui a de l'autisme? La première approche du traitement, elle est psychoéducative, mais nous allons ajouter une partie psychomédico-éducative. Et je vais expliquer pourquoi médico. Psychoéducative, pourquoi? Parce que, étant donné que le trouble est neurodéveloppemental, généralement, on se sert de certaines approches éducatives, notamment cognitivo-comportementales, n'est-ce pas? Avec des approches comme ABA, donc on tient compte du comportement de l'enfant, on apprend à l'enfant comment se comporter et on fait, par exemple, ce que nous appelons sur le plan scientifique une analyse fonctionnelle pour essayer d'apprendre à l'enfant des nouveaux comportements. Et puis d'autres approches qui sont les teach.
Alors, bon, c'est pas la démarche, c'est parce comment on va d'abord voir qui.
Ok. Oui. Merci. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Du moment où vous constatez que votre enfant a perdu la parole. Oui. Votre enfant ne joue plus avec les autres. Il y a des comportements un peu bizarres, des stéréotypies. Rapidement, allez rencontrer un pédiatre. Et heureusement qu'au clinique universitaire, nous avons un service de neuropédiatrie qui collabore avec nous. Oui. Donc, ce service va élaborer un bilan neuropédiatrique et il va vous envoyer chez nous pour un diagnostic. Nous allons évaluer l'enfant pour essayer, avec les outils, les instruments spécialisés que nous avons, nous allons voir est-ce que l'enfant a l'autisme ou il n'a pas l'autisme. Parce que il y a certains enfants qui ont une déficience intellectuelle sévère à profond, mais dont les comportements sont un peu voisins, n'est-ce pas, à l'autisme. Il y a d'autres enfants...
Ces signes-là ne veulent pas dire que l'enfant...
Pas nécessairement. Voilà. C'est pourquoi il faut un diagnostic qui doit être posé par un spécialiste. Sinon, l'enfant recevra un diagnostic qui ne sera pas celui-là, qui ne sera pas spécifique. Alors, maintenant, une fois que l'enfant est envoyé chez nous, nous posons le diagnostic, n'est-ce pas, on voit avec le parent quel type d'intervention. Et puis généralement la prise en charge n'est pas une prise en charge qui est uniquement auprès d'un seul spécialiste. Non. Partout dans le monde, la prise en charge des personnes ou des enfants qui sont en situation autistique est une prise en charge multidimensionnelle, multidisciplinaire. Donc, l'enfant a vu le neuropédiatre, il vient chez nous en tant que psychologue clinicien, psychopathologue. Maintenant, on peut l'insérer dans un circuit d'enseignement, n'est-ce pas, où il va bénéficier d'un enseignement spécialisé au regard de son problème. Alors, il peut également
commencer très tôt pour avoir plus de chances.
Très tôt, c'est encore mieux. Vous savez, lorsqu'on intervient beaucoup plus tôt, nous avons beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Nous recevons des enfants de 12 mois. On a déjà reçu un enfant de 12 mois. Eh bien, aujourd'hui, cet enfant, même hier, je l'ai encore vu au cabinet, cet enfant parle. Il a été intégré, réintégré dans l'enseignement ordinaire, voyez. Mais lorsque le diagnostic est posé tardivement, ça pose beaucoup de problèmes.
L'enfant doit parler à quel âge?
L'enfant est arrivé chez nous à 12 mois d'âge.
À 12 mois d'âge.
Il ne marche pas, il ne parlait pas.
Et aujourd'hui, l'enfant a quel âge?
Aujourd'hui, il a 7 ans.
Il a 7 ans. Ah, donc ça, c'est...
Il a 7 ans et ça fait 2 ans. On a tenté de l'intégrer d'abord il y a eu une année avant, ça n'a pas été. Il est revenu au centre. Maintenant, cette année, on a réussi et là... Vraiment, il est parmi les enfants qui réussissent dans sa classe ordinaire. Pourquoi? Parce que on dirait pas que l'enfant qui a l'autisme n'est pas intelligent. n'est pas intelligente. Je pense qu'on pourra arriver, on va arriver à aborder l'aspect de la comorbidité de l'autisme. L'autisme s'accompagne, n'est-ce pas, d'autres troubles, n'est-ce pas, qui ne font pas partie du diagnostic spécifique, mais qui peuvent faire partie du diagnostic additionnel. Et c'est là où je parlerai, n'est-ce pas, du traitement. Le traitement tient compte d'abord de caractéristiques autistiques,
oui.
Mais il y a aussi un traitement médical. C'est pourquoi j'ai dit psycho-médico-éducatif.
Oui.
Médical, pourquoi? Médical, ça intervient lorsque il y a à cause de la comorbidité. Nous avons le cas, par exemple, des enfants dont l'autisme est associé à l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie, n'est-ce pas, neurologique, n'est-ce pas, mais on peut pas recevoir un diagnostic primaire, n'est-ce pas, lorsqu'on a au même moment de l'autisme. Mais ce qui se voit chez le médecin, c'est le fait que l'enfant fait des pics épileptiformes. Ce sont les pics qui intéressent. Mais alors que certains enfants ont d'abord l'autisme qui a un diagnostic principal et l'épilepsie est un trouble ou une maladie qui est venue se surajouter.
Et pendant le traitement, le parent a également un grand rôle à jouer. Hein.
Beaucoup. Vous savez que partout dans le monde, on peut pas traiter l'enfant avec autisme sans parent. Évidemment, en Europe, ce qui se fait, c'est quoi? Les enfants avec autisme, n'est-ce pas, vivent dans la majorité des cas au sein des institutions spécialisées. Ils y vont lundi, ils rentrent à la maison vendredi soir, n'est-ce pas, et ils rentrent encore lundi ou dimanche soir. À ce moment-là, il y a une substitution par des éducateurs, n'est-ce pas, qui jouent les rôles au moins de parents toute la semaine. Mais les parents ont un œil, n'est-ce pas, ont un regard privilégié sur l'enfant. Chez nous en Afrique, notre mode de vie n'est pas le même que le mode de vie européen. Le mode de vie africain est communautaire. Étant donné que le mode de vie africain est communautaire, je l'ai toujours dit, même dans mes conférences en Europe, que nous avons un avantage en ce qui concerne la prise en charge des enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut à aider l'enfant à pouvoir évoluer. Vous voyez, chez nous, il n'y a pas des institutions où les enfants vont passer une semaine. Mais l'enfant est à la maison et il va à l'institution, il rentre à la maison. Voilà. Donc, la prise en charge est multifactorielle, multidisciplinaire, et le premier partenaire dans la prise en charge, ce sont les parents.
Voilà. Professeur, il y avait également cette question de Malonga, avant d'accorder la parole à Pascal, qui nous appelle de Calémi, sur le moyen des préventions. Si c'est possible de prévenir l'autisme.
Il est difficile vraiment de pouvoir prévenir l'autisme. Et si bien même qu'il y a quelques temps, même il y a deux jours, on m'a posé la question sur le dépistage précoce, n'est-ce pas, de l'autisme. On peut pas prévenir l'autisme. C'est un trouble qui arrive, n'est-ce pas, sans qu'on puisse en apercevoir. C'est la même chose avec la trisomie 21, vous voyez un peu. Donc, c'est pas possible de pouvoir prévenir l'autisme. Dans le temps, je vais faire une précision.
Oui.
Je sais que dans l'histoire de l'autisme, il y a eu un moment, avant les années 1945, on pensait que l'autisme était lié au fait que la mère n'accordait pas beaucoup d'affection à l'enfant, et ce qui faisait que l'enfant développait des comportements autistiques. Mais cette thèse a été balayée, actuellement, on n'en tient plus compte.
Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. Nous parlons de l'autisme avec le professeur Moukaou Joachim, qui est spécialiste de ces troubles hein, chez l'enfant, qui est également psychopathologue. Nous avons d'autres auditeurs en ligne, Pascal qui nous appelle de Calémi, Joseph qui est également à Calémi, si vous êtes également intéressé. Le numéro d'appel, c'est les 0-81-890-63-94.
Capissoir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sports toutes les demi-heures. de 16h à 19h. Bienvenue dans Okapi Soir.
Pascal nous appelle de Calémi. Bonjour Pascal.
Bonjour monsieur le journaliste. Merci également à celui donc qui est en train de nous aider par rapport à ce trouble. La question dont je voulais vous poser à cette occasion ici, c'était de savoir ce traitement-là, où soit le centre qui essaie un peu d'aider ou de traiter sur les gens, les enfants troublant ces petits fleurs-là. Existe seulement là ou bien c'est partout au Congo, parce que si on en sait, on n'entend même pas parler de ces fleurs-là. Pourquoi? C'est la question, juste ça.
Merci Pascal. À Calémi, on va rester à Calémi pour accorder la parole à Joseph. Bonjour Joseph.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Merci, bonjour.
On vous écoute Joseph.
Oui, moi je voulais juste savoir, parce que si j'ai bien suivi l'invité, il avait dit qu'un enfant sur 10 en République démocratique du Congo souffrait de ces troubles-là. Alors, oui. Je me demandais, comme il y a des centres, pourquoi ne pas intégrer un programme de prévention au bureau central dans un sens un peu plus large pour que qu'on prévienne cette maladie un peu plus tôt? Parce que, statistiquement, cette maladie, un enfant sur 10, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour la vie des enfants. Ça peut même compromettre leur avenir selon les explications de l'invité. Si un enfant est écarté socialement, il ne fréquente pas ses amis, il ne joue pas avec ses amis, c'est compliqué même à s'adapter dans sa vie future.
Merci Joseph depuis Clamy. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui.
S'il vous plaît.
Allez-y, vous avez autre chose à ajouter?
Oui, je demandais à l'invité, est-ce qu'ils sont en voie d'intégrer ce programme, oui ou non? Parce que jusqu'à là, c'est limité jusqu'au centre d'éducation ou de formation pareil. C'est un peu ça ma préoccupation.
Merci Joseph, merci d'avoir appelé de Calémiva, parce que vous avez parlé des traitements, mais la question est non, où il faut suivre ce traitement? Oui. À travers les pays, il y a des centres pour cela, il y a également des spécialistes pour les enfants autistes, les enfants qui ont ce trouble.
Merci beaucoup pour cette question. Évidemment, c'est la question qui m'a toujours été posée. Mais je dois vous dire sans hésitation que oui. La problématique de l'autisme dans ce pays est venue avec mes recherches. Ce sont même mes recherches en 2001 qui donc au niveau de ma thèse, donc je constatais lorsque j'ai travaillé ici qu'il y avait une catégorie d'enfants comme ça, et ça avait beaucoup attiré mon attention. C'est ce qui a fait que en tout cas je puisse
solliciter d'aller. C'était déjà en quelle année?
J'étais déjà aux alentours des années 80, 89, 90, 91. Déjà, c'était en 2091 que j'avais reçu le premier enfant qui...
En 2001
91.
Déjà, mission en 1991.
Oui.
Ah bon?
91, si. Je travaillais en tant que psychologue clinicien, je recevais les enfants. Mais alors, j'avais reçu un enfant qui réagissait, mais... Je pensais qu'il avait une surdité, mais les parents étaient venus avec un diagnostic ORL de la surdité. Ben, ce qui me surprenait, c'est que l'enfant pouvait réagir, n'est-ce pas, à certaines choses, à certains gestes, n'est-ce pas, à certaines demandes, mais il ne me regardait pas. Alors, j'avais approfondi le cas, et à un moment donné, à ce moment-là, on m'avait dit que c'était une psychose infantile. Il y a toute une histoire. Et finalement, psychose infantile, avec la documentation, j'avais envoyé en Belgique. Finalement, on me dit non, ce n'est pas une psychose infantile. Il y a ce trouble-là, ça s'appelle trouble grave du développement. Le premier nom qu'on avait trouvé, et après avoir détaché l'autisme, n'est-ce pas, de la psychiatrie, c'était le trouble grave du développement. Dans l'évolution diagnostique, on est arrivé, n'est-ce pas, à trouver la grande nosographie, la grande catégorie de troubles envahissants de développement. Et actuellement, n'est-ce pas, nous parlons de troubles du spectre de l'autisme. Voyez, et c'est à travers ces recherches que, en 2001, j'étais revenu après ma spécialisation en Belgique pour venir former et former des chercheurs avec qui nous avions procédé au dépistage ici, n'est-ce pas? Et après ma thèse, ça a permis que je puisse mettre sur place, n'est-ce pas, une institution expérimentale.
Mais ici à Kinshasa.
Ici à Kinshasa.
Mais pas dans...
L'expérimentation, non, c'est ici à Kinshasa.
Oui.
Ce qui veut dire que les diagnostics spécifiques dans ce pays de l'autisme n'est pas posé encore à l'extérieur du pays, parce que je reçois beaucoup d'enfants qui viennent de Lubumbashi, qui viennent de Bujumbayi, de l'Angola, de beaucoup de pays, n'est-ce pas? Voire même certains enfants qui viennent, pour les Congolais de l'Europe, qui viennent en vacances, mais qui viennent me consulter, vous voyez. Des enfants qui viennent de Brazzaville.
Oui, voyez. Oui, professeur, c'est, en tout cas, c'est, donc tout est parti, vous avez dit, de votre recherche. Félicitations pour cela.
Merci.
Alors, professeur, nous avons en ligne Bertin qui nous appelle de Lubumbashi. Bertin, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Hein.
Voilà, Bertrand, vous travaillez dans un centre qui prend en charge des enfants autistes. On vous écoute, Bertrand. Que vous avez à nous dire par rapport à ce trouble de comportement, d'interaction sociale et des communications chez l'enfant?
Oui, moi je suis monsieur Bertrand, psychologue et thérapeute du centre Balou.
Oui.
Qui s'occupe des enfants vivants avec handicap. Mais moi, je suis chargé de... Je fais la prise en charge des enfants autistes.
Oui.
Je suis en train de dire, monsieur, le professeur qui a fait la spécialité sur l'autisme, est-ce que, au moment où je vous parle, je suis dans un centre avec mes collègues de service, nous sommes en train de suivre le professeur, est-ce qu'il peut nous aider à sensibiliser les parents et à nous donner à nous donner son adresse même pour qu'on puisse travailler en interaction en aidant les enfants congolais.
Voilà, Bertin, merci en tout cas d'avoir appelé Lubumbashi. Le professeur va réagir directement.
Merci beaucoup. J'ai toujours cherché. On m'avait parlé d'un centre à Lubumbashi. J'ai toujours cherché l'occasion de pouvoir collaborer avec vous. Donc mon adresse email est facile. Si vous tapez les noms Joachim Mukau et Boel sur internet, sur Google, vous verrez mon adresse email va apparaître et certaines publications y afférentes. Mais je peux vous communiquer, c'est joachim.mukau@upen.ac.cd.
Alors, Bertrand, vous êtes encore en ligne. Est-ce que, puisque vous vous occupez des enfants autistes là-bas, Lubumbashi, vous pouvez nous faire part de nos témoignages. Comment ça se passe avec ces enfants dans votre travail et surtout vos relations avec les parents?
Voilà. Nous, dans notre système de travail, dès que les parents nous amènent l'enfant, et les parents nous laissent l'enfant, nous faisons d'abord une observation avec l'enfant dans la salle de consultation. Les parents peuvent nous laisser deux heures à une heure du temps d'observation pour qu'on puisse déceler certains signes de l'enfant, des symptômes de la maladie de l'enfant. Et en plus de ça, dès que nous voyons que l'enfant présente telle pathologie, là nous allons faire la prise en charge de l'enfant, la prise en charge thérapeutique de l'enfant.
Et nous allons écouter
l'avis de l'enfant depuis la conception jusqu'à présent auprès des parents.
Et vous avez déjà
Après avoir eu l'histoire de l'enfant et après avoir dégagé certains symptômes chez l'enfant, nous allons faire le bilan thérapeutique. Nous allons expliquer aux parents et nous allons mettre le diagnostic provisoire de l'enfant. Et ça sera confirmé après.
Alors dites-nous Bertin, maintenant vous avez à peu près combien d'enfants autistes dans votre centre?
Au centre Balou, nous avons 50 d'enfants autistes. Et nous sommes à 25 psychologues thérapeutes.
Ah voilà. Voilà, merci beaucoup Bertin. En tout cas, j'espère que vous avez pris le contact du professeur à notre invité, hein, Mouka ou à Joachim. Hein. En tout cas, merci d'avoir participé à cette tranche de l'émission par rapport à l'autisme. Et merci de nous avoir parlé de votre centre. On va retrouver notre auditeur en ligne. C'est Trésor. Lui, il est ici à Kinshasa. Bonjour Trésor.
Bonjour Marcel. Bonjour auditeur Radio Capi.
Alors, vous écoutez, oui.
J'ai une question à poser au professeur Mukau.
Oui.
Et il a parlé de la prise en charge psycho-éducative. Et pratiquement où il organise, dans quelle institution où on peut amener un enfant quand on trouve un enfant qui a un problème ici à Kinshasa, où on peut l'amener. Donc je voulais savoir l'adresse où on peut amener un enfant qui a un problème pour la prise en charge psycho-éducative.
Trésor, vous avez un enfant qui est concerné par ces genres de troubles?
Oui, nous avons un enfant dans la famille, donc nous voulons amener l'enfant pour la consultation et la prise en charge pour la prise en charge psychoéducative.
Merci, Trésor.
Oui, merci. Si vous voulez amener l'enfant, il y a deux sites. Il y a deux sites. Le premier site qui est le siège, c'est à Limba au Camp Riche. Camp Riche Limba Échangeur, avenue Bypass numéro 9 bis, donc au Camp Riche Échangeur. Et puis le deuxième site est à Angaliema, c'est à l'avenue de l'Équateur numéro 20, non loin de l'église La Borne.
Pour ça, vous voulez bien répéter à l'adresse d'abord de Lemba, oui.
L'adresse de Lemba, c'est avenue Bypass numéro 9 bis, Camp Riche Lemba, Lemba Échangeur. Bypass 9 bis, Lemba Échangeur. Et donc, le centre s'appelle Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec autisme et handicap mental, CEMA. Deuxième site, c'est Angaliema UPN, donc non loin de la Borne, de l'église La Borne, sur la venue de l'Équateur numéro 20. Voilà, Équateur numéro 20. L'entrée Massikita ou bien l'entrée par trafic de l'UPN.
Voilà, pour toutes les personnes qui sont ici à Kinshasa et qui ont peut-être des enfants qui présentent ces genres de troubles développés par le professeur Boukao Joachim, hein, il faut aller vraiment consulter les enfants, le professeur l'a dit. Si vous avez un enfant qui a des troubles d'interaction sociale, de communication parole, de comportement, c'est pas dit que cet enfant souffre c'est au spécialiste de poser le diagnostic. Professeur, il nous reste plus qu'à vous dire merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été de notre pour aborder cette question sur ce trouble qui se manifeste chez en train de nombreux enfants, enfants congolais. Et donc peut-être que vous avez parlé de Kinshasa, mais j'imagine d'autres parents qui sont à l'intérieur du pays, ils ont peut-être des mêmes problèmes. Un numéro de contact, si c'est possible.
Oui. Le numéro de contact, c'est le 081 19 35 202, 081 19 35 202, ou 089 50 41 781.
Je réponds rapidement. Donc si vous voulez entrer en contact avec le professeur Mouka Joachim, vous pouvez l'appeler 081 19 35 202, ou alors 089 50 41 781.
Merci
professeur, merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver une prochaine fois pour parler de l'autisme. Nous
merci
rappelons
beaucoup.
Que vous êtes le professeur Mouka Joachim, spécialiste de l'autisme chez l'enfant, également psychopathologue.
Merci beaucoup.
Merci.